Quelle belle période, hein, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas pour vous, mais je suis impatient de fêter Noël cette année. L'année dernière, on n'était qu'à deux avec Julie parce qu'avec les conditions sanitaires que vous connaissez, c'était un peu compliqué. Mais cette année, normalement, si tout se passe bien, on va recevoir de la famille. On va recevoir la famille de Julie. Donc, on a hâte, on a vraiment hâte. Ça fait 2, 3 ans qu'on ne les a pas vus et ça va être une belle période. Mais le temps d'arriver à Noël nous paraît extrêmement long. C'est terriblement long. L'attente, j'ai remarqué que l'attente d'un événement qui va me plaire, je sais qu'il va me plaire, cette attente-là, ça me semble être interminable. Je ne sais pas pour vous, est-ce qu'il y a des gens qui aiment attendre dans cette salle? Ah, c'est ce qui me semble. Ah, j'ai vu une main là-bas se lever. Rien que pour toi, je vais attendre de te donner mon titre si tu aimes attendre. Personne n'aime attendre. On n'aime pas ça, l'attente. C'est pour ça qu'on a créé les calendriers de l'Avent. C'est pour nous donner un petit chocolat tous les jours, histoire d'attendre le gros party de Noël. C'est pour ça qu'on sort des bandes-annonces de films où on tease un petit peu certaines musiques. C'est pour donner envie, c'est pour faire patienter un petit peu. Mais malgré les chocolats, malgré les teasers, parfois l'attente, elle est interminable. L'attente est interminable et on a du mal à voir les bénéfices. Moi, quand je vois la bande-annonce d'un film, je me dis, OK, ton film est prêt là, qu'est-ce que t'attends pour me le montrer? Je n'ai pas envie d'attendre 6 mois pour le voir. Et pareil, quand je vois des artistes qui sortent leur album, ils ne sont pas là pour m'entendre, mais ils nous disent, ouais, dans 3 mois, connectez-vous sur Facebook, Internet, on va vous sortir le nouveau single. Montre-le-moi maintenant là, ton single, je n'ai pas envie de l'entendre dans 3 mois, je suis impatient, montre-le-moi tout de suite. Mais en fait, l'attente, dans l'attente, on oublie qu'il y a un but. On oublie que l'attente n'est pas faite pour nous embêter. On attend parfois parce que le timing n'est pas encore parfait. Le film, quand on voit la bande-annonce, il n'est pas encore totalement terminé. Et puis en plus de ça, il faut bien préparer la sortie parce que sinon, il va faire un flop aux entrées. Et c'est pareil pour les artistes quand ils sortent une chanson. Il faut préparer l'attente, il faut donner envie aux gens de venir écouter la première sortie de l'album. Et Noël est la preuve que l'attente est importante. Et ce matin, mon titre, Noël, le parfait timing de Dieu. On va faire une lecture ce matin et on va aller dans l'Épître aux Galates. On va aller au chapitre 4 de l'Épître aux Galates et on va aller du verset 3 au verset 5, mais c'est surtout le verset 4 qui va nous intéresser ici. Il est écrit au verset 3, Nous de même, tant que nous étions comme des enfants, nous étions esclaves des forces spirituelles du monde. Mais quand le moment fixé fut arrivé, quand le timing a été parfait, quand le moment a été décidé, quand c'était le parfait moment, Dieu envoya son Fils. Il naquit d'une femme et fut soumis à la loi juive, afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi, pour que nous puissions ainsi devenir fils de Dieu. Noël a été une question de timing pour Dieu. Mais pour comprendre Noël, il faut comprendre d'où ça vient. Pourquoi il faut un Noël? Pourquoi y a-t-il fallu avoir un Noël? Et on voit Noël dès le premier livre de la Bible, dès la Genèse. Dans la Genèse, nous voyons que Dieu, le Dieu créateur, a tout créé. Il a parfaitement tout créé, le ciel, la terre, l'univers, la nature, les eaux, l'homme et la femme. Et après avoir créé tout ça, il s'arrête et dit, Oh, c'est bon ce que j'ai fait. C'est parfait. Il n'y a rien qui manque. Tout est à sa place. C'est pas comme toi quand tu as fini de monter un meuble Ikea et qu'il te reste 14 pièces dans la main et tu dis, Oh, est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai entendu des rires, donc ça veut dire qu'il y en a qui vivent comme moi ce phénomène un peu bizarre où tu te retrouves avec 15 pièces devant un meuble Ikea, entre guillemets, terminé. Mais pour Dieu, ce n'était pas ça. Pour Dieu, c'était parfait. Jusqu'au jour où l'homme et la femme se sont rebellés contre Dieu. Jusqu'au jour où ils ont désobéi à Dieu. Ils ont péché, ils ont manqué la cible, ils ont manqué le plan de Dieu pour leur vie. Et cette désobéissance, elle a entraîné 3 choses. La première chose que la désobéissance a entraînée, c'est que ça a cassé la relation avec Dieu. Ils vivaient dans une relation parfaite. Ils marchaient avec Dieu dans le jardin d'Éden, qu'on appelait le jardin d'Éden. Ils marchaient avec Dieu jour après jour. Ils étaient dans une présence constante de Dieu. Et à partir du moment où ils ont péché, cette relation a été coupée. Deuxièmement, le péché les a condamnés à la mort. Parce que le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. À partir du moment où tu pèches, à partir du moment où il y a un péché, c'est une condamnation grave, c'est une faute grave aux yeux de Dieu. Et c'est la mort qui s'ensuit par la suite. Et troisièmement, le péché est héréditaire. Il se transmet de génération en génération. Et c'est pire que la Covid, parce que 100% des êtres humains sont contaminés par le péché. On est tous contaminés par le péché. Et Noël vient de cet instant de désobéissance. Parce qu'à partir du moment où ils ont désobéi, Dieu, qui aime tellement les hommes, leur a fait une annonce importante, et on le retrouve en Genèse 3:15, vous allez le voir. Il leur dit, ok, vous avez péché, mais de votre descendance va venir une personne, va venir un Messie, va venir quelqu'un qui va venir écraser le mal, qui va venir écraser la tête du serpent, qui va venir écraser le péché. Dieu commence à préparer la révélation de l'arrivée de Jésus dès la Genèse. Noël, ça commence dès la Genèse. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir un ensemble de prophéties, un ensemble d'histoires, un ensemble de versets qui annoncent la venue d'un sauveur, qui annoncent la venue de Jésus, qui annoncent la venue de Dieu le Fils, qui va venir pour restaurer la paix, restaurer l'amour, la relation entre Dieu et les hommes. Et Dieu donne toutes ces prophéties-là pendant des centaines et des centaines d'années, pendant tout l'ensemble de l'Ancien Testament, et puis d'un coup, plus rien. Silence. Blackout. Pendant 400 ans. Et cette période-là, c'est entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et alors que Dieu leur donnait des teasers pendant plusieurs des centaines d'années, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive, des petits chocolats du calendrier de l'Avent, d'un coup, plus rien. Plus rien. Dieu est silencieux. Et je pense que les Hébreux ont dû se dire, hey, il est où Dieu? Est-ce qu'il a oublié sa promesse d'un Messie? Est-ce qu'il a oublié la promesse d'un Sauveur? Peut-être même il y a des gens ce matin qui se posent exactement la même question. Il est où Dieu pour moi? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il pense encore à moi? Et ces questions, les Juifs se les sont posées. Et puis Noël est arrivé, le miracle est arrivé, la réponse de Dieu est arrivée, Jésus est né, on l'a chanté, tous ces chants-là découlent de la venue de Jésus. Mais pourquoi il n'est pas venu avant? Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas venu avant? Et c'est là où on voit le timing parfait de Dieu. Je ne sais pas si vous aimez l'histoire, vous le savez, pour la majorité, j'aime l'histoire. Donc comme j'aime l'histoire, vous n'avez pas le choix d'aimer l'histoire. C'est comme ça que ça marche. Mais en fait, c'est important de comprendre l'histoire ici pour comprendre en quoi Noël a été un timing parfait pour Dieu. Premièrement, ça a été un timing parfait pour Dieu parce que pendant ces 400 ans-là, il y a un monsieur, Alexandre le Grand, je ne sais pas s'il était grand, mais il s'appelait comme ça, Alexandre le Grand, est arrivé et il a fait une énorme conquête de l'Asie occidentale. Et dans toute cette conquête-là, il a décidé une chose très importante. Il a dit, ok, maintenant, dans tout le pays que j'ai conquis, on va parler une seule et même langue, le grec. Un peu comme l'anglais aujourd'hui. Peu importe le pays où tu vas, si tu te débrouilles un petit peu en anglais, normalement, tu vas pouvoir te débrouiller à te faire comprendre, peu importe le pays dans lequel tu te trouves. À l'époque, c'est pareil. Si tu sais parler le grec, tu pouvais voyager partout et te faire comprendre partout en Asie orientale. Deuxièmement, les Romains aussi sont arrivés pendant cette période-là de 400 ans. Et ils ont instauré la Pax Romana. Alors non, ce n'est pas un nouveau variant de la Covid. La Pax Romana, c'était un état de paix. Où dans tout le pays, dans toutes les régions que les Romains ont conquéries, il y avait, même si c'était sous occupation romaine, il y avait une paix entre les différents pays, entre les différentes villes, entre les différentes régions, qui permettait des meilleurs échanges, qui permettait une meilleure circulation du transport, qui ont permis aux gens de mieux circuler dans toute l'Europe, jusqu'en Asie. Ça a permis d'avoir des belles routes, vu que les échanges étaient parfaits. Sans nid de poule, avec une belle asphalte, bien lisse, bien propre. Pas besoin d'aller au Canadian Tire tous les 6 mois pour essayer d'aller chercher un nouveau pneu parce qu'on s'est pris un méchant nid de poule. Non, non, c'était parfait, c'était lisse et ça permettait une bonne circulation. Les transports étaient super. Et troisièmement, pourquoi Noël a été le timing parfait ? Parce que le contexte religieux était parfait pour ça aussi. D'un côté, on avait les non-juifs, les Romains et les Grecs. Les Romains et les Grecs soupiraient après quelque chose. Ils cherchaient quelque chose, mais ils ne savaient pas quoi. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé des dieux, et des dieux, et des dieux. Mais ça venait jamais combler leur vide, donc qu'est-ce qu'ils font ? On rajoute des dieux, on rajoute des dieux, on rajoute des dieux. Mais ça venait jamais combler le vide qu'il y avait en eux. Et de l'autre côté, on avait les Juifs qui connaissaient parfaitement la loi, qui connaissaient parfaitement l'Ancien Testament, qui connaissaient parfaitement tous les teasers sur le Messie, tous les petits chocolats de l'avant sur le Messie. Ils le connaissaient parfaitement parce que leurs ancêtres avaient oublié ces règles. Leurs ancêtres avaient oublié toutes ces paroles-là. Et en oubliant tout ça, la conséquence de tout ça, c'est qu'ils ont été déportés dans d'autres pays. Alors, leurs enfants, se sont dit « Non, non, nous, on ne va pas faire les mêmes erreurs, donc on va connaître parfaitement la loi. » Donc, ils connaissaient parfaitement les enjeux de ce qu'allait apporter le Messie, de ce qu'allait faire le Messie dans leur vie. Et alors que les Juifs attendaient, alors que le monde entier attendait, alors que Dieu semblait être silencieux, Dieu mettait en place ses pions. Dieu mettait en place son échiquier. Je ne sais pas si vous avez vu la série Netflix dernièrement, Le jeu de la dame. Oui, ok, il y a une fan ici. Le jeu de la dame, en fait, c'est une femme, on voit l'histoire d'une femme qui veut être la meilleure échiquière au monde. Et pour ça, elle gravit les échelons. Et moi, personnellement, j'y connais rien aux échecs. Ne me demandez pas comment on y joue, j'en sais rien. Mais dans la série, ce que j'ai compris, c'est que la victoire se gagne progressivement. La victoire se fait parce qu'on doit placer les pions au bon moment et les enlever au bon endroit afin de pouvoir gagner. Et quand on regarde à la période de silence de 400 ans où on a l'impression que Dieu ne bouge pas, en fait, Dieu était en train de préparer ses pions. Dieu était en train de préparer le terrain. Il préparait une langue commune pour que le message de la bonne nouvelle de Jésus soit compris partout. Il préparait les bonnes routes, des belles routes, pour que le message de la bonne nouvelle de Jésus puisse se répandre encore plus loin. Il préparait les cœurs des gens pour que Jésus puisse être reçu encore plus facilement. Et là, je vous ai trouvé juste 3 exemples, mais quand je faisais mes recherches, j'en trouvais plein de choses qui nous montraient que Noël, c'est la preuve que le timing de Dieu a été parfait. Dans le silence, Dieu agissait. Et Noël, c'est un rappel que Dieu n'arrête pas d'agir. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, qu'on se sente vide quand on prie, qu'on a l'impression que nos prières ne dépassent pas le plafond, ou quand on vit un moment extraordinaire, Dieu reste le même. Dieu est là et Dieu agit. Et Noël, c'est ça. Noël, ce n'est pas juste un moment où on ressort la petite crèche avec le petit bébé Jésus, avec le petit âne, et puis les anges, et puis... Non, non. Noël, c'est le rappel que Dieu ne t'oublie pas, que tu n'es pas mis de côté par Dieu, que Dieu entend tes prières, que Dieu n'oublie pas ses promesses pour ta vie, que Dieu agit même si tu ne vois rien. Même si tu ne le vois pas agir. Noël, c'est le rappel que Jésus est venu sur terre pour que plus jamais tu ne te sentes seul. Jésus est venu sur terre pour que plus jamais tu ne te sentes seul. Matthieu nous dit que Jésus est appelé aussi Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec toi, Dieu constamment avec toi, que tu le vois ou que tu ne le vois pas. Dieu reste et demeure avec toi. Et c'est ça Noël. Noël doit être un temps de rappel pour toi, pour ta vie, que Dieu est à tes côtés, que Dieu ne te laisse pas. Alors que tu as l'impression que tes prières ne semblent pas être répondues, tu ne comprends pas, tu cherches encore ton travail, tu pries mais tu ne trouves pas de travail. Tu pries mais ton couple ne se restaure pas. Tu pries mais tes enfants n'ont pas l'air de vouloir changer leur attitude. Tu pries mais tu es toujours malade. Laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul dans tes prières. Dieu est à tes côtés. Le chocolat de l'Avent que tu peux goûter à tous les jours, il se trouve dans la présence de Jésus. Et ce n'est pas juste du 1er décembre au 24. C'est à chaque jour, tu peux goûter de la présence de Jésus. Et l'attente n'est pas faite pour t'embêter. Dieu n'est pas sur son trône. Il attend. Ça me fait rire. Non, l'attente a un but. Il y a un but derrière l'attente. Dans l'attente, Dieu met en place son œuvre, mais aussi il te prépare à recevoir la promesse, à recevoir la réponse à tes prières. Il prépare ton cœur. Dans l'attente, Dieu façonne ton caractère. Alors, ne dépense pas ton attente à taper du pied, à râler, à en vouloir à Dieu, même si c'est dur, je sais ce que c'est. Mais façonne, utilise cette attente pour te laisser façonner par Dieu, pour passer encore plus de temps dans sa présence, pour passer encore plus de temps à ses pieds, pour chercher à le voir encore plus agir au fond de toi. Et quand il va répondre à tes prières, tu vas dire « Ouf, hey, heureusement qu'il n'aurait pas répondu avant, j'aurais pas été prêt. Je n'aurais pas été prêt. » Habacuc nous dit, au chapitre 2, au verset 3, « Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, et même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. » Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en avance non plus. Avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure, comme dit le dicton. C'est exactement ça pour Dieu. Et j'ai invité l'équipe à venir me rejoindre. J'ai vécu l'attente. J'ai vécu l'attente. Quand Dieu a déposé ce rêve dans ma vie d'être un pasteur, je me suis dit « Ok, let's go, on va y aller, je suis prêt, envoie-moi, sers-toi de moi. » Silence. Bon, ben, j'ai continué ma vie. J'ai continué mes études. Oh, échec scolaire. Oh, je coule tous mes cours. Ok, ben on va travailler en banque alors. Et là encore, c'était juste de la frustration. C'était juste de la frustration parce que je savais que ce n'était pas là ma place. Puis quand Dieu nous a dit « Ok, let's go, maintenant vous allez à l'ITF, tu vas te former. » Yes, enfin! Ça a l'air d'arriver, ça a l'air de se passer. Le rêve que Dieu a déposé dans mon cœur va arriver enfin. Let's go, on y va. Et finalement, non. Je suis arrivé ici à l'ITF et je suis resté encore dans l'ombre. Dans l'ombre de Julie, parce que Julie a commencé à travailler à Nouvelle Vie et elle a rayonné à Nouvelle Vie. Mais j'étais dans son ombre. J'étais son bénévole. J'étais le mari de Julie. Puis j'ai continué à servir et j'ai été dans l'ombre du stage parce que j'étais stage manager. J'étais dans l'ombre du stage, derrière le stage, je servais ces musiciens-là. Je servais le prédicateur et j'étais juste dans l'ombre, dans l'attente. Puis la Covid est arrivée et tout ce que je faisais, à l'arrêt, encore dans l'attente, dans une attente indéterminée. Mais j'ai compris que Dieu était en train de me former dans l'attente. Je suis arrivé à un point dans ma vie où je disais, Seigneur, que tu me répondes ou que tu ne me répondes pas, je m'en fiche. Je vais être avec toi. Et à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à débloquer des situations et c'est là où je dis, non, non, en fait, je ne suis pas prêt. Et là où Dieu a dit, si, si, maintenant, tu es prêt. Ton attente est en train de former ton cœur. ton caractère, ta relation avec Dieu, ton identité. Je veux juste encourager une personne ce matin qui se dit, mais où est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il entend mes prières? Est-ce qu'il voit mon cœur là, qui pleure toutes les nuits pour mon couple, pour mes finances, pour mes enfants? Est-ce qu'il me voit? Ouais, Jésus te voit. Jésus est venu pour que plus jamais tu ne te sentes seul. Dieu est à tes côtés, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, même si tu as l'impression qu'il est totalement absent. Ne te fie pas à ce que tu ne vois pas, mais fie-toi à ce que la parole dit de Dieu. Dieu, dans la Bible, Dieu dit qu'il est fidèle, qu'il est bon, qu'il t'aime, qu'il te voit. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Il connaît exactement ce qui se passe dans ton cœur. Il connaît exactement ta situation et il sait exactement comment te réconforter, comment t'aider, comment t'encourager. Alors ce matin, avant qu'on conclue ces moments, je veux juste prendre le temps de prier pour une personne qui est fatiguée d'attendre, qui est épuisée d'attendre. Ne te repose pas uniquement sur tes propres forces, mais va trouver ton refuge et ton réconfort en Dieu. Il n'y a qu'en lui que tu pourras survivre et surmonter l'attente. Père, merci d'être fidèle envers nous. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus, par-dessus tout, d'être venu sur terre pour être Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu constamment avec nous. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui est découragée ce matin, qui n'a pas l'impression de te voir agir, qui n'a pas l'impression que ses prières sont entendues, que ses prières sont prises au sérieux par toi. Que mes mots puissent être utilisés par toi et par ton esprit pour que tu puisses réconforter ces cœurs. Viens leur montrer à quel point tu es à leur côté. Viens leur montrer à quel point tu les aimes et à quel point tu te soucies d'eux. Viens leur montrer que même s'ils ne voient rien, tu agis. Même s'ils ne le voient pas, tu es là. Même s'ils ne ressentent rien, tu es présent à côté d'eux. Tu es à côté d'eux dans cette salle d'attente. Je te prie que la joie inonde ce cœur fatigué. Je te prie que la paix inonde ce cœur déçu. Je te prie que la confiance en toi vienne régner dans ces vies. Merci Jésus pour ton œuvre. Merci Jésus d'être venu pour nous sauver, d'être venu pour nous racheter, d'être venu pour tout accomplir à la croix. Seigneur, alors que ces moments sont en train de se conclure, nous voulons te rendre une dernière fois la gloire, l'hommage et la louange pour ce que tu as accompli pour nous. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Et que toute l'Église dise Amen.